Parlons patrimoine avec les journalistes en herbe, un projet de journalisme et de patrimoine réalisé sur le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
Dans le cadre de la convention territoriale Arrosons la Plaine, portée par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
et la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'éducation nationale,
le département de l'Ain
et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Bonne écoute!
Elle habitait une maison bien délabrée, entre Tenay et Saint-Rambert en Bugey. Elle vivait comme on vivait dans le passé.
Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Arrosons la Plaine, réalisé par le classe du Centre socioculturel de l'Albarine Alpha 3A avec Radio B. Je suis Nassim et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Datry. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le patrimoine naturel de notre département, et plus précisément celui de la Plaine de l'Ain. Nous sommes au collège de l'Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey et nous avons décidé de vous parler du patrimoine naturel avec la rivière de l'Albarine. Elle a façonné les paysages et elle rend notre territoire unique. Découvrons cela dès maintenant avec notre invité. C'est parti pour l'interview.
Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Thibaut Datry et j'habite sur les hauteurs de Saint-Rambert-en-Bugey.
Quel est votre métier ?
Je suis chercheur en écologie aquatique, c'est-à-dire que j'essaie de développer des connaissances nouvelles pour mieux comprendre comment fonctionnent les rivières, notamment dans un contexte de changement climatique.
Connaissez-vous l'Albarine ?
Un petit peu, oui.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur l'Albarine ?
J'y travaille depuis une quinzaine d'années et je la connais depuis 20 ans.
L'Albarine est-elle connue ?
Ça dépend pour qui. Dans le milieu scientifique, elle est extrêmement connue parce que je pense que c'est la rivière intermittente qui a été le plus étudiée parce que ça fait 15 ans qu'on travaille beaucoup dessus. Elle est extrêmement intéressante et c'est une des premières rivières qui a été étudiée aussi en détail pour bien comprendre comment elle s'asséchait et qu'est-ce que ça avait comme conséquence sur son fonctionnement écologique notamment. J'ai eu par exemple une dizaine de doctorants et de doctorantes, donc des gens qui ont fait une thèse, sur l'Albarine. Donc on connaît pratiquement tous les cailloux de l'Albarine.
Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ?
C'est une bonne question et c'est pratiquement impossible d'y répondre dans le sens où quand l'homme s'est installé, donc on parle d'il y a très très longtemps, les premiers hommes, en fait la première chose qu'ils ont nommée autour d'eux c'est les rivières, parce qu'on a tous besoin d'eau, sans eau on ne vit pas. En fait, c'est fait partie des premiers noms qui ont été donnés avec les montagnes à notre environnement. Par contre, en réfléchissant au fait qu'elle s'assèche, que notamment dans la partie où on est là, dans la partie basse, elle s'assèche et qu'en été, en fait, elle est toute blanche, pleine de cailloux tout blancs, que alba, ça veut dire blanc en latin, on peut supposer que albarine, ça vient du fait qu'elle est intermittente et qu'elle est toute blanche pendant 6 mois. Quand on dépasse Torcieux, elle est toute blanche 6 mois par an.
Quelle est sa particularité ?
Eh ben, elle n'en a pas qu'une seule, elle en a plusieurs. La première particularité, c'est qu'elle est divisée pratiquement en deux, parce qu'il y a toute une phase de l'Albarine qu'on ne voit pas, mais qui est sur le plateau, qui est toute plate, qui est sur du calcaire, qui est sur de la roche mer. Et puis après, il y a une grosse cascade qui fait quasiment 200 mètres, qui s'appelle la cascade de Charabot. Et après, c'est presque une autre rivière qui démarre, parce qu'elle n'est pas sur la même couche géologique. Elle coule sur des sédiments grossiers, des galets, des graviers qui ont été laissés par les anciens glaciers qui couvraient toute la région il y a 10 000 ans. Ça, c'est la première particularité. La cascade, elle fragmente vraiment la rivière en deux. Et sa particularité, c'est pas vraiment une particularité au final, mais ça l'a été pendant longtemps, c'est qu'elle est intermittente. C'est-à-dire qu'elle s'assèche à plusieurs endroits et parfois pendant plusieurs mois où on voit pas d'eau en surface. Et puis des fois, elle se remet en eau complètement. Et je dis que c'est pas la particularité de l'Albarine parce que grâce à l'Albarine, ça a été notre modèle pendant 15 ans, on sait que la plupart des rivières ont des secteurs comme ça qui s'assèchent naturellement. L'Oignin, l'Angelon, le Séran, le Suran, toutes les rivières du coin, elles sont pareilles en fait. Alors on a mis un focus sur l'Albarine à cause de moi un peu, parce que j'ai bossé dessus beaucoup, mais en fait elles sont toutes pareilles. Et dans le monde, de manière globale, la majorité des cours d'eau naturellement s'assèchent. C'est un peu une révolution actuellement dans les sciences aquatiques, c'est pas facile de faire passer le message, notamment aux pêcheurs. En fait, naturellement une rivière s'assèche. En plus de ça, il y a un signal du changement climatique qui est très très fort, y compris sur l'Albarine. En 30 ans, l'Albarine, on a gagné, je crois de mémoire, 3,1 degrés en Berrieux, ce qui est énorme, c'est beaucoup plus que la moyenne. Et on sera de toute façon beaucoup plus frappé par le changement climatique ici que dans d'autres régions. Et en fait, la rivière, elle a pris 30% en moyenne d'assèchement en étendue spatiale chaque année depuis 1980. Et c'est dû à l'évapotranspiration, tout simplement. Quand il fait chaud, les arbres respirent plus, donc ils pompent l'humidité du sol ou des nappes. Et donc, en fait, l'eau de la rivière, elle disparaît à vue d'œil. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2022. On a eu une année assez sèche et on a eu des canicules. Et le couplage des deux a fait que l'Albarine, elle a failli s'assécher en plein centre de Saint-Rambert. Elle était à 27 degrés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui pouvait vivre dedans à Saint-Rambert, quoi. Pour complexifier les choses, il y a des rivières qui se sont asséchées pour la première fois dans les années récentes, là, à cause du changement climatique et des usages en lien avec le changement climatique. Plus il fait chaud, plus on a besoin d'eau. On a besoin d'eau au moment où il y en a le moins. Et donc, quand on allume les pompes pour irriguer le maïs, par exemple, ça fait disparaître des rivières.
Quel est l'impact à l'intermittent sur la faune et la flore ?
Eh bien, il y a plusieurs impacts différents. Comme c'est une rivière qui est intermittente naturellement, c'est-à-dire que ça fait depuis la dernière... En gros, il y a 10 000 ans, ici, on était sous la glace. Donc, les glaciers sont retirés, donc les rivières sont apparues. Depuis 10 000 ans, les organismes, ils ont eu le temps d'évoluer et de pouvoir vivre avec l'intermittence. Donc, il y a tout un cortège d'espèces qui sait très bien comment vivre l'intermittence. C'est-à-dire, je prends un exemple, il y en a qui se cachent dans les cailloux, où c'est un peu humide pendant l'été, et ils attendent le retour de l'eau. Et eux, ils peuvent survivre, ils sont pas trop embêtés par le manque d'eau. Il y en a qui s'échappent au bon moment et d'autres pas du tout. Il y en a d'autres qui ont des cycles de vie qui se sont adaptés à la dynamique temporelle de l'intermittence. Par exemple, des petits insectes qu'on trouve sous les cailloux, qui mangent les feuilles mortes. Au mois de mars, ils s'échappent de la rivière. C'est des larves qu'on trouve dans l'eau, c'est des adultes qui vivent dehors. Donc ils se transforment en adultes, ils vont se cacher dans des grottes. Et au mois de novembre, juste avant que la rivière elle, se remette en eau, ils viennent pondre sur les cailloux. Et du coup, quand la rivière se remet en eau, les œufs sont dispersés dans le paysage et ça fait qu'il y a des populations qui survivent comme ça depuis très longtemps. Ça, c'est pour des espèces qui sont très adaptées. Il y a d'autres espèces, notamment les poissons, les truites et les ombres. Eux, ils peuvent pas résister aux assèchements. Il y a des poissons en Afrique, il y a des poissons en Amérique du Sud, en Asie, qui peuvent respirer de l'air, qui peuvent attendre que l'eau revienne. En France, ils savent pas faire. Donc, en fait, ils s'échappent, tout simplement. C'est que juste avant que la rivière s'assèche, ils vont se planquer dans des refuges, dans des affluents, etc. Et puis quand l'eau revient, ben, ils reviennent avec l'eau. Et malheureusement, il y en a toute une partie qui sont piégés, qui n'ont pas eu le temps de s'échapper et qui meurent. Alors, ils ne meurent pas pour rien parce qu'ils donnent à manger aux chauves-souris, aux renards, aux rats, aux castors, etc. À tous les animaux qui viennent vivre au bord de la rivière.
Vous dites que les poissons s'adaptent dans certains pays. Lesquels et comment ?
Alors, je vais décevoir, mais je ne les connais pas tous, ces poissons. Mais par contre, j'ai quelques exemples en tête. Il se trouve que dans les pays dont je parlais, c'est des pays qui sont entre les deux tropiques. Et en fait, entre les deux tropiques, ils ne sont pas le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ils ont une saison sèche, une saison humide. Donc une saison où il ne pleut pas du tout, où tout s'assèche, y compris l'Amazone, par exemple, un des plus grands fleuves au monde. Et puis une saison très très humide, où il pleut tout le temps, tous les jours, où là, tout déborde. Et donc ça fait chaque année beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Et ça depuis plus longtemps que 10 000 ans, parce qu'il n'y a pas eu les glaciations en Amérique du Sud, par exemple, ou en Afrique. Et donc, ben, les poissons, ils sont revenus en arrière. En fait, la vie, originellement, elle vient de l'eau. Et les poissons, ils sont sortis de l'eau. Puis ça a donné les dinosaures, etc. Et ben là, il y a des poissons qui ont repris un peu cette étape-là, c'est-à-dire ils sont capables de rester sur le bord de la rivière. Ils s'enterrent un petit peu dans la boue et ils respirent de l'air. Soit ils ont une respiration comme nous, soit ils respirent à travers leurs téguments, mais ils sont capables de respirer de l'air. Et puis il y a d'autres poissons qui se mettent dans des espèces de caches dans le lit des rivières où il y a plus d'eau, mais il y a un petit peu d'humidité, et ça suffit pour les préserver. Ils s'arrêtent de... J'ai oublié de dire, mais ils s'arrêtent un petit peu de vivre. Ils se mettent en forme de vie ralentie, on appelle ça des dormances. En gros, leur métabolisme, il se réduit au strict minimum, comme quand on est dans le coma, juste pour protéger le cerveau, en gros. Et puis quand l'eau revient, bah, ils se remettent très rapidement à la vie. Donc ça, c'est un processus qui est assez courant dans tous les écosystèmes aquatiques qui sont temporaires ou intermittents comme l'Albarine. Mais on n'a pas encore ça en France. Il faudrait plus de temps pour qu'en Europe, il y en a un petit peu en Espagne, mais dans la zone méditerranéenne, mais on n'a pas encore d'adaptation à l'assèchement physiologique aussi fort.
Que peut-on faire pour préserver l'Albarine ?
Eh bien, tout ce qu'on peut faire dans n'importe quelle rivière. Donc en fait, il faut en prendre soin comme si c'était une rivière qui ne s'asséchait pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser toute son eau pour l'agriculture, pour laver des voitures, etc. Donc il faut lui laisser de l'eau, parce que sinon, ben, les poissons, toute la biodiversité, elle va mourir. Il ne faut pas la polluer, mais ça, c'est le cas de n'importe quelle rivière. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on fait sur tous les cours d'eau, il faut la protéger. Il y a aussi autre chose, mais ça c'est plus difficile à vous expliquer, mais on est dans une vallée très encaissée, et la pauvre rivière, avant, elle devait couler là où on est actuellement. Elle a été chenalisée pour pouvoir faire passer une route, pour pouvoir faire passer une ligne de train, et ça c'est important pour nous, mais du coup elle en souffre un petit peu. Elle a été très très rectifiée physiquement, donc elle n'a plus vraiment d'espace pour déborder, et on l'a vu il y a une trentaine d'années, puis ça reviendra statistiquement, quand il y a vraiment beaucoup d'eau, eh ben elle déborde. Et comme on a construit les routes, les lignes de train et les maisons, là où normalement ça lui arrive de déborder une fois tous les 100 ans, eh ben ça nous arrivera encore d'avoir les pieds dans l'eau. Et on ne peut pas faire grand-chose pour éviter ça.
Quel futur peut-on imaginer pour la rivière de l'Albarine ?
On peut imaginer tous les futurs, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut en faire. Et notamment vous, parce que c'est vous qui risquez de la voir plus longtemps que nous. On peut la laisser comme elle est, on peut l'améliorer, on peut la détruire, on peut l'enterrer. Il y a eu un moment, la rivière, elle coulait dans Saint-Rambert, elle avait été un canal qui avait été fait pour alimenter les usines. On peut en faire ce qu'on veut de la rivière. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire ? Après, il y a beaucoup de...
Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au patrimoine naturel de la plaine de l'Ain. Il a été réalisé par Nassim, Hugo, Dylan, Shana, Luna, avec Radio B, les animatrices et les bénévoles du Centre socio-culturel de l'Albarine et la professeure documentaliste de l'école de Saint-Rambert-en-Bugey. Nous remercions Thibaut Datry pour sa participation et ses réponses et la communauté de communes de la plaine de l'Ain pour cette opportunité. Préserver et valoriser notre environ est une mission qui nous concerne tous.
Radio B,
Radio B,
Radio B,
les bonnes ondes.
Retrouvez-nous dans le prochain épisode de Arrosons la plaine. Merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.